Tout de suite maintenant, bonjour à la une en Israël avec vous Blaise. On va continuer de parler de cette opération Flèche et Bouclier avec notre invité que je vous laisse le soin de nous présenter.
Bonjour Raphaël Jérusalmi.
Bonjour.
Vous êtes ancien officier des renseignements militaires. Alors cette nuit, nous avons appris que deux terroristes palestiniens ont été tués lors d'affrontements armés avec les forces israéliennes à Kabatia en Judée-Samarie. Alors premièrement avec vous, en sait-on plus sur cette opération ?
Ben, il s'agissait en fait de terroristes qui préparaient un attentat imminent et donc il fallait intervenir rapidement sur des renseignements obtenus par les services de sécurité israéliens. Et c'est donc la brigade des parachutistes de Tzal qui a essayé de les appréhender et devant la résistance qu'ils ont opposée, eh bien, ils ont été tout simplement éliminés. Sous le feu d'ailleurs de d'autres terroristes qui ont attaqué nos soldats pendant cette opération, mais heureusement aucun de des soldats n'a été touché et ce sont les terroristes que l'on recherchait qui ont été appréhendés. Deux, les Palestiniens parlent d'un troisième dont Tzal ignore l'existence, mais il se pourrait que dans les escours pourrait une troisième personne ait été éliminée.
Alors revenons aux tensions de la nuit de lundi à mardi. Cette nuit, donc de mardi à mercredi, a été plutôt calme. Doit-on s'attendre à ce que les tensions soient ravivées ?
Bien, il serait étonnant que le djihad islamique en reste là, après la gifle qui lui a été infligée, ne serait-ce que pour sauver la face, une salve d'honneur, si ce n'est plus, peut-être une attaque de plus grande ampleur avec l'appui du Hamas et pourquoi pas le Hezbollah. Donc tous les scénarios sont possibles et imaginables et Tzal est prêt à les affronter, qu'ils soient mineurs ou majeurs, avec en ce moment une sorte de tension psychologique mais aussi économique pour les habitants, surtout du sud d'Israël, qui je crois qu'ils en sont arrivés à un point où ils préféraient déjà voir un missile voler pour en finir, que cette attente qui prend sur leur psychologie, en tous les cas, surtout les enfants qui aujourd'hui n'ont pas école. On parle quand même de 300 000 enfants et adolescents qui ne vont pas à l'école aujourd'hui, qui doivent rester près des abris avec cette épée de Damoclès qui plane sur leur tête et les difficultés psychologiques que cela impacte sur eux. Et puis, évidemment, un dégât économique, ce qui justifierait peut-être cette attente du djihad islamique de frapper en voyant que ça cause déjà ces dégâts-là psychologiques et économiques.
Justement, vous parlez de dégâts psychologiques. Le djihad islamique a déclaré « Israël est incapable de résister longtemps à une guerre psychologique ». On parle vraiment d'une guerre psychologique, là. Elle n'a pas d'autre but ?
Elle n'a aucun but, puisque c'est de la haine pure et gratuite contre les Juifs, puisque ces attentats répétés, ces missiles jetés sur Israël n'avancent en aucun cas la cause palestinienne, ni même celle de l'islam, et donc c'est carrément gratuit, c'est de la terreur pure et dure. Mais si les djihadistes islamiques croient que les Israéliens ne tiendront pas le coup, ils se trompent un petit peu dans la mesure où ça fait plus de 20 ans que l'on tire sur Israël et sur les enfants d'Israël, et que la résilience israélienne a fait ses preuves et fera encore ses preuves. Je pense que justement, après tous les différents rounds qu'il y a eu, surtout entre Gaza et Israël, on voit à quel point les habitants du sud d'Israël et même du reste du pays sont résilients et ne cèdent pas. Ils sont au contraire pour. Ils aimeraient que le gouvernement passe à une action beaucoup plus coup de poing. Ils sont prêts à encaisser beaucoup plus de missiles et autres s'ils avaient le sentiment que le gouvernement israélien entame une campagne qui mettrait fin, une fois pour toutes, justement, à cette situation inacceptable face à Gaza.
Yoav Gallant, de son côté, a dit que les objectifs de Tzahal avaient été atteints. Les objectifs étaient de toucher le djihad islamique en son intérieur, en touchant ces trois dignitaires du mouvement.
Oui, les objectifs ont été atteints avec une réussite à 100%, à sans faute. Mais c'est une opération qui, pour l'instant, semble ponctuelle, donc qui ne change en rien la donne. C'est un beau coup, on peut s'en féliciter, bien sûr, mais on ne voit pas en quoi cela va changer la stratégie sur le terrain. Et si ça ne va pas arrêter, ça va un petit peu freiner peut-être les activités du djihad islamique, mais ça ne change pas la donne. On s'étonne d'ailleurs de l'immunité qui a été accordée au Hamas. Pourquoi ne s'en prendre qu'au djihad islamique? Le Hamas est tout aussi coupable. En plus, il détient deux corps de soldats israéliens et deux citoyens israéliens en vie. Donc, pourquoi l'épargner? Une immunité bizarre. Et on se demande aussi pourquoi c'est seulement sur Gaza qu'on a frappé et pas en Judée-Samarie, où là aussi résident des dirigeants terroristes qui mériteraient bien d'être éliminés.
Pour terminer, le Hamas a annoncé qu'une réponse ne tardera pas. On doit avoir peur de cette déclaration du Hamas?
Oui, on doit toujours s'inquiéter des déclarations intempestives et qui parfois sont suivies d'actes et d'autres fois ne le sont pas. Ça peut être aussi un bluff. Le Hamas attend ses instructions, tout comme le djihad islamique, de Téhéran. Parallèlement, il y a des négociations entamées indirectement à travers le Qatar et l'Égypte pour calmer le jeu. Il y a donc ici un bras de fer à qui obéiront en fin de compte les terroristes de Gaza, à leur maître économique et financier iranien ou à leur maître économique et financier qatari. Les prochaines heures, nous le dirons.
Raphaël Jérusalemi, je rappelle que vous êtes ancien officier des renseignements militaires. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka.
Merci.